Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal suivi de la revue de presse et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Secrétaire, bonsoir. Voici donc le journal. Nous commençons avec le titre. Le vice-président indonésien a dit « Le Vietnam a demandé le soutien de l'Indonésie lié à la question de la mer de Chine méridionale. » Le vice-président Yusuf Kalla a affirmé « L'Australie n'a rien d'affaire avec les droits de l'homme en Papouasie. » Le palmier à huile, le plus grand contributeur à l'exportation nationale. Pertamina Lubricants encourage le marché des lubrifiants de l'ASEAN. Soutient le péage de mer de Jokowi, l'investisseur japonais est prêt d'investir 365 milliards roupias. Et enfin, Pindad a projeté la vente de 2016 d'être 3 trillions roupias. Voici le journal complet. Le gouvernement vietnamien a demandé le soutien de l'Indonésie d'unifier la position de l'ASEAN liée à la solution de mer de Chine méridionale ou LCS. Cela a été déclaré par le vice-président Yusuf Kalla après une rencontre avec le ministre de la Sécurité publique du Vietnam, Tô Lâm, au bureau du vice-président le vendredi. Pour l'unanimité de la position liée à l'ECS dans la région, le vice-président Yusuf Kalla a convenu avec le Vietnam que tous les pays membres de l'ASEAN ont la même attitude. Auparavant, le député du vice-président chargé du soutien de la politique publique, Fortune Anwar, a déclaré que le soutien demandé par le ministre vietnamien de la Sécurité publique était adressé spécifiquement aux efforts des Philippines qui a déposé une poursuite devant la Cour internationale d'arbitrage, ou CPA, liée à la revendication de la Chine envers LCS. Outre le Vietnam et les Philippines, les autres pays de l'ASEAN comme les partis qui revendiquent LCS sont la Malaisie et Singapour. Le ministre Tô Lâm a également affirmé au vice-président Yusuf Kalla que l'Indonésie et le Vietnam avaient un rôle important dans l'ASEAN pour maintenir la stabilité et la sécurité dans la région afin d'améliorer le bien-être des gens de tous les pays membres de l'ASEAN. Le vice-président Yusuf Kalla a affirmé que l'Australie n'a rien d'affaire avec la question des droits de l'homme en Indonésie, en particulier liée à la Papouasie. La déclaration a été faite par le vice-président Yusuf Kalla à son bureau à Jakarta vendredi, liée aux commentaires du gouvernement australien qui touchent souvent les questions relatives aux droits de l'homme en Papouasie. Selon lui, parfois, la compréhension des droits de l'homme est souvent en contradiction avec la mise en œuvre de l'application de loi, donc la bonne explication est nécessitée pour enlever les erreurs d'opinion. Concernant l'explication à la partie australienne, le 8 juin, le ministre de coordination des politiques, juridiques et de sécurité, Luhut Binsar Panjaitan, a visité ce pays. Et des questions de droits de l'homme en Papouasie est l'un des sujets abordés à la réunion. Cette réunion a tenu à Sydney pour la deuxième réunion ministérielle entre l'Australie et l'Indonésie dans les domaines du droit et de la sécurité. le chef de la police nationale, le général Badruddin Haïti, le chef de l'Agence nationale de lutte contre le terrorisme, le commissaire général policier Tito Carnavian et le directeur général de l'immigration du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Ronnie F. Sompi, a assisté à cette réunion. L'Association indonésienne du palmier à huile, GAPKI, a dit qu'actuellement, l'industrie du palmier à huile était la plus grande source de devises au milieu de la diminution des exportations nationales au cours des deux dernières années. Le chef de GAPKI, Joko Supriyono, a déclaré vendredi que l'année dernière, la recette de devises provenant des exportations de produits du palmier à huile avait diminué par rapport aux années précédentes. Bien qu'il y ait la diminution, mais la contribution des exportations de l'industrie du palmier à huile est encore mieux que les exportations dans les secteurs du pétrole et du gaz. Il a ajouté qu'en plus d'être le plus grand contributeur aux exportations nationales, l'industrie du palmier à huile jusqu'à récemment est un secteur qui peut absorber des emplois, d'améliorer le bien-être des agriculteurs et être en mesure de soutenir le développement local. PT Pertamina Lubrifiant, à travers son entreprise conjointe en Thaïlande, fixe des objectifs d'augmentation des ventes de lubrifiants dans les marchés de l'Asie, en particulier la région de l'Indochine, à partir de 4 millions de litres à 2 millions de litres en 2019. Pertamina Lubrifiant, au cours des 6 dernières années, a agressivement commercialisé ses produits lubrifiants de qualité supérieure dans le marché international, qui jusqu'à présent a atteint plus de 14 pays. C'est ce qu'a déclaré le directeur des ventes et du marketing de PT Pertamina Lubricants, Andrea Nusa, aux journalistes vendredi soir. Il a affirmé que l'augmentation de l'objectif de vente à 300% à la suite des progrès encourageants sur la performance de son usine de lubrifiants en Thaïlande. Actuellement, l'usine en Thaïlande qui a produit les lubrifiants de l'industrie de Pertamina et a été commercialisée en Thaïlande. Comme on le sait, en décembre 2014, Pertamina Lubricants est devenu l'actionnaire majoritaire d'Amacor Production Co. Ltd, un fabricant de lubrifiants à Bangkok en Thaïlande de 75%. Andrea Nusa a affirmé qu'actuellement, cette entreprise a changé son nom à Pertamina Lubricants Thailand Co. Ltd. Cette acquisition est la principale stratégie de l'entreprise pour augmenter la pénétration en Thaïlande et à Indochine. Au milieu de cette année, sa partie lancera également les produits de lubrifiant automobile Pertamina Fastron Synthetic Oil pour le marché thaïlandais. La visite de travail du directeur de l'agence coordinateur de l'investissement, Franky Sibarani, au Japon le jeudi dernier a réussi d'identifier un nombre de nouveaux potentiels d'investissement, à savoir l'intérêt d'investir d'un montant de 365 milliards roupias dans le transport maritime intérieur pour les produits spéciaux de Surabaya à l'est de l'Indonésie, y compris Papua. Franky Sibarani a dit vendredi dernier que son côté va faciliter l'intérêt d'investir du Japon. Le programme du PIAS de mer vise à faciliter le courant de produits, notamment en Indonésie. Ceci va avoir l'impact positif de légalisation de développement. Franky Sibarani souhaite que l'intérêt de l'investissement de l'entreprise japonaise de transport maritime soit immédiatement réalisé. Pindad, société anonyme, une entreprise d'État qui produit les armes, les munitions et les véhicules de combat, a projeté la vente d'environ 3 trillions roupias en 2016, une augmentation par rapport de 2015 qui atteint 2 trillions roupias. Le président directeur de l'industrie du transport de terre de Pindad, société anonyme, Silmi Karim, au milieu du lancement de 4 nouveaux armes, jeudi a affirmé l'augmentation de la cible de vente était dans la même direction avec la valeur du contrat de l'ordre des armes, des munitions et des véhicules de combat. Les 4 armes lancées sont fusil d'assaut SS-3, fusil d'assaut SS-2 subsonique, 5,66 mm submachine gun et pistolet G2 premium. Selon Sylmi Karim, les nouvelles armes qui sont résultat du développement des produits et de l'innovation de Pindad attirent un nombre de pays au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Un autre nombre de pays s'intéressent aussi de commander les véhicules de combat fabriqués par Pindad. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers amis, de divers événements importants dans cette semaine sont résumés dans la revue de presse. Nous commençons du quotidien Republica qui a écrit dans son éditorial le 9 juin sur « Travailler en synergie ». La hausse des prix des produits de base avant et pendant le Ramadan devient une crise annuelle. Les gens doivent faire face à la hausse des prix à venir du Ramadan pour une raison quelconque. Compte tenu du phénomène de cette routine, le régulateur aurait dû prévoir depuis longtemps. Pourquoi, par exemple, le prix des oignons, les riz et le sucre augmente à l'approche de Ramadan? En fait, il n'y a pas de problème de la fourniture de l'alimentation. La fourniture des paysans semble suffisante, donc il n'y a aucune raison de la hausse des prix. Mais ce n'est pas le cas. Les prix de certains produits de base étaient encore en flèche. Selon Republica, s'il n'y a pas d'obstacle à la fourniture et à la distribution, il y a un problème avec un tiers. C'est normal si le soupçon conduit à des pratiques mafieuses ou cartels. Les grands commerçants misent délibérément les prix dans l'espoir d'obtenir le maximum de profit lorsque la demande pour les produits de base a grimpé. Selon Republica, la coordination parmi les institutions est le mot-clé. Si chaque institution pourrait jouer le rôle correctement en fonction de la décision qui a été prise, les problèmes qui se posent peuvent certainement être minimisés et résolus. Que les ministères et organismes compétents puissent exercer bien les fonctions de chacune. Ensuite, le journal Business Indonesia a écrit dans son éditorial le 10 juin sur l'appareil d'État, ce n'est pas seulement le cas budgétaire. Enfin, le président Joko Widodo doit confirmer l'information sur l'appareil civil de l'État, ASN, le nom remplaçant les fonctionnaires PNS. Il y a la rumeur que le gouvernement va faire la rationalisation contre 1 million d'ASN dans 3 prochaines années. Cette rumeur est commencée de l'affirmation du ministre de l'utilisation des appareils d'État et la réforme de bureaucratie, Yudi Krisnandi, que la ratio idéale du nombre d'ASN est 1,5% de la population totale de l'Indonésie. Donc, on a besoin de rationalisation des appareils d'État. Bien que ce ne soit encore fixé, cette affirmation les fait agiter. Selon le journal Business Indonesia, l'affaire des appareils d'État n'est pas seulement l'affaire du budget qui doit être préparée par le gouvernement. On doit aussi parler sur la sortie qu'on produit. Jusqu'à présent, il y a toujours un stigmate que la compétence et la productivité des appareils d'État sont encore en décalage des normes de la SN. Le novembre dernier, le président Joko Widodo a demandé aux appareils d'État ASN d'accélérer la réforme de bureaucratie au tout niveau, développer la mentalité positive, avoir l'intégrité, avoir l'éthique du travail, l'esprit de l'action mutuelle. Le président a souhaité devenir la force motrice de la productivité et de la compétitivité de la nation nationale. 5 mandats présidentiels doivent être surveillés en permanence, car la réforme et la révolution mentale n'est pas facile à réaliser. Changer la culture et de la mentalité qui a été en cours d'exécution depuis de nombreuses années est certainement pas facile. Nous terminons la revue de presse avec l'éditorial du journal Média Indonesia le 6 juin sur Ramadan, plein de la diversité. C'est touchant à lire ce journal le dimanche 5 juin qui a signalé comment la tolérance et la diversité ont fait rage avant le Ramadan. De musiciens aux racines de différentes religions qui étaient une fois en conflit s'unissent de célébrer la diversité avant et pendant le Ramadan. Le phénomène qui a marqué le renouveau de la prise de conscience de la nature. Il est devenu les lois que la nature de la vie dans l'univers est diversifié et différent. Toute personne qui refuse la diversité nie de la nature humaine. Il n'est pas honnête avec lui-même que la vie dans l'univers, en réalité, n'est pas uniforme. Le jeûne est en train d'honnêteté. La croissance de la tolérance et de la diversité pendant le Ramadan est clairement en ressort dans le désert de la violence au nom de la religion qui continue de se propager dans le pays. Nous devons prendre soin de la diversité des propriétés apaisantes et les récolter afin que sèchent rapidement. Selon ce quotidien, le Ramadan étant plein de diversité devient un élan important pour la nation à fouler le chemin vers la sincère. Cher ami, c'était la revue de presse.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs, on va écouter maintenant notre programme quotidien, l'histoire d'aujourd'hui, pour l'édition 11 juin. On commence le 11 juin 1903, coupe d'État en Serbie. Une coupe d'État a lieu en Serbie le 11 juin 1903. Lors de ce soulèvement, le roi Alexandre Ier Obrenović, pro-autrichien, sa femme et ses principaux ministres sont assassinés par des officiers nationalistes membres de la main noire et désireux de renverser le pouvoir en place. Le roi Pierre Ier Karađorđević prend la succession d'Alexandre Ier sur le trône de la Serbie. Il meurt en 1921 après avoir passé le trône à son fils. On continue l'événement le 11 juin 1938, début de la bataille de Wuhan en Chine. Début le 11 juin 1938 de la bataille de Wuhan en Chine, après la victoire de Shanghai et Nankin, l'armée japonaise était déterminée à vaincre les Chinois à Nankin et ainsi mettre un terme à la guerre sino-japonaise. Après 4 mois de batailles sanglantes, le Japon finit par être victorieux sans pour autant anéantir définitivement l'armée chinoise qui, à l'aide des Russes, a opposé une grande résistance. On termine l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement le 11 juin 1950. L'Union de la République d'Indonésie, RIS, a devenu le 16e membre de l'Organisation internationale du travail, OIT. L'Union de la République d'Indonésie est une fédération qui a été créée le 27 décembre 1949 à la suite d'un accord des 3 parties à la table ronde, à savoir la République d'Indonésie, Bienkomst voor Federal Overleg et les Pays-Bas. Cet accord a été témoin aussi par la Commission des Nations Unies pour l'Indonésie en tant que représentant de l'Organisation des Nations Unies. République unie d'Indonésie se compose de plusieurs États, à savoir l'État Indonésie orientale, l'État Pasundan, l'État Java-Est, l'État Madura, l'État Sumatra oriental, l'État Sumatra du Sud. Serviteurs, c'était notre histoire d'aujourd'hui pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point et un petit titre, Pindad, société anonyme, lance 4 nouvelles armes. Afin d'améliorer la capacité et la compétitivité avec d'autres pays, l'industrie de l'armée de terre société anonyme, Pindad, société anonyme, a lancé 4 nouvelles armes. Ces 4 armes à feu qui étaient produites par Pindad Société Anonyme étaient créées pour soutenir les fonctions de troupes qui varient en fonction de la qualité de la précision maximale. Le président directeur de Pindad Société Anonyme, Silmi Karim, en marge du lancement de l'arc à Jakarta jeudi, 9 juin 2016, comme publié par Antara, a déclaré que le lancement est une forme d'engagement de Pindad Société Anonyme à soutenir la puissance militaire et de réaliser l'indépendance de l'industrie nationale de la défense. Ces 4 armes sont le résultat du développement et les efforts de recherche de Pindad Société Anonyme. 4 armes qui ont été lancées, fusil d'assaut SSB, fusil d'assaut SS2, subsonique 5,66 mm, mitraillette PMS et le pistolet G2 Premium. Silmi Karim a expliqué, le fusil d'assaut SSB est le développement de la série de fusils d'assaut Pindad précédent, à savoir le type 882. Le fusil SSB utilise la munition du calibre 7,62 mm qui est dessiné comme Designated Marksman Rifle dans les forces qui nécessitent une grande précision. Cependant, le fusil d'assaut SS2 subsonique est spécialement dessiné avec le réducteur. La munition utilise la taille 5,56 mm. Ce type d'arme est approprié pour les opérations spéciales qui nécessitent des capacités de mouvement silencieux. En ce qui concerne le pistolet G2 Premium, il utilise des munitions avec le calibre 9 mm d'une portée de 25 mètres. Silmi Karim a ajouté, Pindad Société Anonyme, une société d'État qui fabrique des armes, des munitions et des véhicules de combat a projeté d'être capable de vendre environ 3 milliards de roupies en 2016, soit une augmentation par rapport à 2015 qui a atteint environ 2 milliards de roupies. La cible de vente a pénétré 3 milliards de roupies est en accord avec l'augmentation de la valeur du contrat d'ordre des armes, des munitions et des véhicules de combat. Sylmi Karim assure, les deux pays du Moyen-Orient sont intéressés à commander une nouvelle arme de Pindad en raison de la qualité et la précision sont maximisées. En outre, plusieurs autres pays sont également intéressés par les véhicules de combat. On prévoit que le quatrième lancement de ces armes pour construire la confiance est nécessaire pour continuer à utiliser des produits nationaux. Cependant, le ministre indonésien de la Défense, Ria Mizar Triakudu, apprécie Pindad Société Anonyme qui a innové en produisant les produits et en la bonne qualité pour la nation. Cet effort est une forme réelle de soutien de Pindad Société Anonyme envers la force militaire d'Indonésie. Pour Ria Mizar, l'industrie de la défense avancée est la nécessité de chaque pays. La présence d'une industrie de défense qualifiée va sans aucun doute encourager une armée formidable. Il a souligné qu'il est important de maintenir la défense de la nation en donnant la naissance à un équipement de combat fiable. Par conséquent, la capacité des forces armées est grandement influencée par l'industrie de la défense. À l'occasion, Ria Mizar a exprimé le soutien du gouvernement à Pindad, Société Anonyme, afin de continuer à innover pour réduire la dépendance sur les équipements de défense importés. De plus, selon Ria Mizar Triakudu, certaines armes de Pindad ont été prouvées délivrées. L'armée a remporté le concours de tir entre les forces de terre mondiales dans le championnat Assam à Noskali il y a quelque temps. En outre, la force de terre d'Indonésie attend aussi la prestation lors de la compétition de tir Army Asian Rifle Meet ou dans la compétition de tir Brunei International Skill at Arms Meet. Ria Mizar a ajouté, à travers le lancement des 4 fusils, Pindad est prouvé capable de résister à la pression des produits de l'extérieur. Il a également invité l'industrie à construire une défense solide. Chers amis, c'était la mise au point.
Le gouvernement vietnamien a demandé le soutien de l'Indonésie d'unifier la position de l'ASEAN liée à la solution de mer de Chine méridionale ou LCS. Cela a été déclaré par le vice-président Yusuf Kala après une rencontre avec le ministre de la Sécurité publique du Vietnam, Tô Lâm, au bureau du vice-président le vendredi. Pour l'unanimité de la position liée à l'ECS dans la région, le vice-président Yusuf Kala a convenu avec le Vietnam que tous les pays membres de l'ASEAN ont la même attitude. Auparavant, le député du vice-président chargé du soutien de la politique publique, Fortune Anwar, a déclaré que le soutien demandé par le ministre vietnamien de la Sécurité publique était adressé spécifiquement aux efforts des Philippines qui a déposé une poursuite devant la Cour internationale d'arbitrage ou TPA liée à la revendication de la Chine envers LCS. Outre le Vietnam et les Philippines, les autres pays de l'ASEAN comme les partis qui revendiquent LCS sont la Malaisie et Singapour. Le ministre Tô Lâm a également affirmé au vice-président Yusuf Kala que l'Indonésie et le Vietnam avaient un rôle important dans l'ASEAN pour maintenir la stabilité et la sécurité dans la région afin d'améliorer le bien-être des gens de tous les pays membres de l'ASEAN. Le vice-président Yusuf Kala a affirmé que l'Australie n'a rien à faire avec la question des droits de l'homme en Indonésie, en particulier liée à la Papouasie. La déclaration a été faite par le vice-président Yusuf Kalla à son bureau à Jakarta vendredi, liée aux commentaires du gouvernement australien qui touchent souvent les questions relatives aux droits de l'homme en Papouasie. Selon lui, parfois, la compréhension des droits de l'homme est souvent en contradiction avec la mise en œuvre de l'application de loi, donc la bonne explication est nécessitée pour enlever les erreurs d'opinion. Concernant l'explication à la partie australienne, le 8 juin, le ministre de coordination des politiques juridiques et de sécurité, Luhut Binsar Panjaitan, a visité ce pays. Et des questions de droits de l'homme en Papouasie est l'un des sujets abordés à la réunion. Cette réunion a tenu à Sydney pour la deuxième réunion ministérielle entre l'Australie et l'Indonésie dans les domaines du droit et de la sécurité. Le chef de la police nationale, le général Badruddin Haiti, le chef de l'Agence nationale de lutte contre le terrorisme, le commissaire général police, Tito Karnavian, et le directeur général de l'immigration du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Ronnie F. Sompi, a assisté à cette réunion. L'Association indonésienne du palmier à huile, GAPKI, a dit qu'actuellement, l'industrie du palmier à huile était la plus grande source de devises au milieu de la diminution des exportations nationales au cours des deux dernières années. Le chef de GAPKI, Joko Supriyono, a déclaré vendredi que l'année dernière, la recette de devises provenant des exportations de produits du palmier à huile avait diminué par rapport aux années précédentes. Bien qu'il y ait la diminution, mais la contribution des exportations de l'industrie du palmier à huile est encore mieux que les exportations dans les secteurs du pétrole et du gaz. Il a ajouté qu'en plus d'être le plus grand contributeur aux exportations nationales, l'industrie du palmier à huile jusqu'à récemment est un secteur qui peut absorber des emplois, d'améliorer le bien-être des agriculteurs et être en mesure de soutenir le développement local. PT Pertamina Lubrifiant, à travers son entreprise conjointe en Thaïlande, fixe des objectifs d'augmentation des ventes de lubrifiants dans les marchés de l'Asie, en particulier la région de l'Indochine, à partir de 4 millions de litres à 2 millions de litres en 2019. Pertamina Lubrifiant, au cours des 6 dernières années, a agressivement commercialisé ses produits lubrifiants de qualité supérieure dans le marché international, qui jusqu'à présent a atteint plus de 14 pays. C'est ce qu'a déclaré le directeur des ventes et du marketing de PT Pertamina Lubricants, Andrea Nusa, aux journalistes vendredi soir. Il a affirmé que l'augmentation de l'objectif de vente à 300% à la suite des progrès encourageants sur la performance de son usine de lubrifiants en Thaïlande. Actuellement, l'usine en Thaïlande qui a produit les lubrifiants de l'industrie de Pertamina et a été commercialisée en Thaïlande. Comme on le sait, en décembre 2014, Pertamina Lubricants est devenu l'actionnaire majoritaire d'Amacor Production Co. Ltd, un fabricant de lubrifiants à Bangkok en Thaïlande de 75%. Andrea Nusa a affirmé qu'actuellement, cette entreprise a changé son nom à Pertamina Lubricants Thailand Co. Ltd. Cette acquisition est la principale stratégie de l'entreprise pour augmenter la pénétration en Thaïlande et à Indochine. Au milieu de cette année, sa partie lancera également les produits de lubrifiant automobile Pertamina Fastron Synthetic Oil pour le marché thaïlandais. La visite de travail du directeur de l'agence coordinateur de l'investissement, Frankie Sibarani, au Japon le jeudi dernier a réussi d'identifier un nombre de nouveaux potentiels d'investissement, à savoir l'intérêt d'investir d'un montant de 365 milliards roupias dans le transport maritime intérieur pour les produits spéciaux de Surabaya à l'est de l'Indonésie, y compris Papua. Frankie Sibarani a dit vendredi dernier que son côté va faciliter l'intérêt d'investir du Japon. Le programme du péage de mer vise à faciliter le courant de produits, notamment en Indonésie. Ceci va avoir l'impact positif de l'égalisation du développement. Franky Sibarani souhaite que l'intérêt de l'investissement de l'entreprise japonaise de transport maritime soit immédiatement réalisé. Pindad, société anonyme, une entreprise d'État qui produit les armes, les munitions et les véhicules de combat, a projeté la vente d'environ 3 trillions roupies en 2016, une augmentation par rapport à 2015 qui atteint 2 trillions roupies. Le président directeur de l'industrie du transport de terre de Pindad Société Anonyme, Silmi Karim, au milieu du lancement de 4 nouveaux armes, jeudi a affirmé l'augmentation de la cible de vente était dans la même direction avec la valeur du contrat de l'ordre des armes, des munitions et des véhicules de combat. Les 4 armes lancées sont fusil d'assaut SS-3, fusil d'assaut SS-2 subsonique, 5,66 mm submachine gun et pistolet G2 premium. Selon Silmi Karim, les nouvelles armes qui sont résultat du développement des produits et de l'innovation de Pindad attirent un nombre de pays au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Un autre nombre de pays s'intéressent aussi de commander les véhicules de combat fabriqués par Pindad. Serditeur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec la rubrique du magazine culturel. Ce soir, nous vous invitons à visiter Kulon Progo, en province Yogyakarta, afin de connaître la tradition Long Bumbung. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la Voix d'Indonésie.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Actuellement, dans le monde, les musulmans jeûnent pendant le Ramadan. Il y a plusieurs façons le public à attendre le moment de rompre le jeûne, ou plus communément appelé ngabuburit, allant de récital à se réunir en famille ou entre amis. À Kulon Progo, en particulier dans le hameau Karang, au village Tuksono, district Sentolo, la région Kulon Progo, situé dans la province de Yogyakarta, un grand nombre d'enfants, les adolescents et les parents attendent le temps de rompre en jouant des canons de bambou connus sous le nom de Long Bumbung. Jouer Long Bumbung est héréditaire. Les matériaux utilisés pour jouer Long Bumbung comptent seulement sur certains tronçons de tiges de bambou. Chaque segment de bambou était vidé à l'intérieur. Pour jouer Long Bumbung, dans le dernier segment est rempli avec du kérosène ou de carbure et de faire sauter le feu allumé. Le résultat est un énorme audio et assourdissant. À l'approche d'après-midi, le jeu devient plus excitant parce que ça sonnait comme des pétards. Pour créer le jeu Long Bumbung ou d'un canon de bambou, Ce qui est nécessaire est un bambou avec un diamètre de 10 à 15 cm qui est ensuite découpé le long de 4 à 7 segments. La cloison de chaque segment doit être éliminée et le seul restant dernier segment comme place à remplir le kérosène ou le carburant. Le trou de brique est situé à la base de bambou et en la taille 1 x 1 cm. Le kérosène dans le bambou est allumé pendant 10 minutes pour chauffer le tube. Puis le trou est allumé avec une fosse de feu à l'aide de bambou au long de 50 cm. Pas long après, le son de hurlant d'air est discordant. En attendant le bruit de tonnerre, tout est heureux. Si, à l'autre part, on entend une voix plus forte, ils essaient aussi de faire le canon produire le son plus fort. Quand le son du canon arrête, cela signifie la rupture du jeûne est arrivée. Puisque le jeu est un peu dangereux, il est nécessaire de la surveillance des parents. Et parce que l'huile d'aujourd'hui est difficile à obtenir, les joueurs de long boum-boum pour atteindre la rupture de jeûne sont en bouburite diminue. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidèle attention. À demain. Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec la rubrique de l'Indonésie en couleur. Le Festival d'art Bali, soit PKB, est une activité annuelle étant tenue le juin et le juillet à Bali. Comment est la réalisation du festival cette année? La réponse est dans la rubrique de l'Indonésie en couleur ce soir. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. L'île Bali organise de nouveau un grand festival d'art pendant un mois pour les touristes locaux et étrangers. Ce festival est appelé le Festival d'art Bali, soit PKB. Cette année, c'est le 38e festival ayant pour thème Pasuk Wetuning Buana, maintenir l'équilibre et la synergie universelle. Ayant lieu au Parc culturel Bali, ce festival est commencé aujourd'hui, le samedi 11 juin jusqu'au 9 juillet 2016. Il est ouvert par le président Joko Widodo. L'objectif de la mise en œuvre du Festival d'art Bali, PKB, chaque année régulièrement, est de préserver, développer et promouvoir les arts de Bali. Festival d'art Bali a été commencé en 1979 et son initiateur est le 6e gouverneur de Bali, le défunt Ide Bagusmantra. Initialement, le PKB est maintenu pendant 2 mois, du 20 juin 1979 jusqu'au 23 août 1979. Lors de la visite de la préparation du PKB le mercredi 6 juin 2016, le gouverneur de Bali, Made Mangkupastika, a demandé la mise en œuvre du PKB cette année d'être plus créatif et varié que l'année précédente en termes de performance, le décor de la zone du festival et le service. Comme les normes pour les artisans impliqués dans l'exposition, afin qu'il y ait uniformité du service et de prix. Outre la normalisation jongler la salle de réunion des 30 mini-cinémas, montrant des films documentaires sur l'histoire de Bali, ainsi que d'autres films de développement. Le chef de la section de la préservation et du développement des arts du bureau culturel provincial de Bali, Putu Sedana, a dit que depuis septembre 2015, il avait fait des préparations pour la mise en œuvre de PKB en 2016. Pour la mise en œuvre du 38e Festival d'art Bali, chaque district et ville sont obligés de suivre les 21 activités qui sont contestées, mais en raison de contraintes budgétaires, tous les districts peuvent suivre toutes les courses qui sont obligées, telles que Jembrana et Buleleng. En plus des participants des districts et des villes à Bali, il y a 9 régions et 9 délégués d'art et de la culture du monde entier sont prévus pour montrer leur capacité dans ce festival. L'événement PKB est animé avec différents types de compétitions, les artisanats de ménage, l'exposition de l'industrie à petite échelle, étant fréquemment participé par de nombreux participants. Selon le directeur du bureau du tourisme de Bali, A. Agde Agung Juniarte, dans sa conférence de presse le mardi 7 juin, les visiteurs peuvent également voir le théâtre balinais moderne, festival culinaire qui présente un grand nombre de plats locaux, typiques de la région, ainsi que des collations, des spectacles musicaux unisexes, ainsi que les danses contemporaines incroyables. En outre, le PKB sera aussi animé avec de diverses compétitions, comme la course à écrire la littérature, de l'artisanat, des peintures et autres, ainsi que de servir une variété de parades, comme parades culinaires, défilés de mode, parades ngelawang, drames de danse, parades gongkebiar, danse bumbung et autres. Si vous aimez les artisanats balinais tels que la peinture, la sculpture et la danse, ce festival d'art annuel ne manquez pas pendant vos vacances à Bali. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'être fidèles à notre antenne La Voix d'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des musiques indonésiennes et cette fois, nous avons déjà sélectionné des chansons pop avec un groupe de musique Naïf. Naïf est un groupe musical qui est fondé le 22 octobre 1995 à Jakarta. Commencé dans le campus de l'Institut d'Art Jakarta, IKJ, Naïf était fondé. Bon, chers auditeurs, écoutons maintenant la première chanson de Naïf intitulée « Les eaux et les feux ». Bonne écoute.
Hidup bagaikan air dan api.
Chères auditrices et chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Le groupe Naïf se compose de David Bayu Danang Jaya Raspati ou David comme chanteur, Fajar Endra Taruna ou Jarwo, guitariste, Chandra Wirawan Sukardi ou Chandra comme claveriste, Muhammad Amil Hussein Al-Hajri ou Emil comme bassiste et Frankie Indras Moro Sumbodo ou Pepeng comme batteur. Ils ont rempli les programmes dans le campus IKJ. Le nom Naïf était d'origine de l'opinion d'un ami qui estimait ses chansons sont simples, mais complètes et harmoniques. En outre, le nom de Naïf se souvient facilement. Bon, serviteur, on écoute une chanson suivante de Naïf, intitulée Benci untuk mencinta. Bon écoute.
Oh, betapa ku saat ini ku benci untuk mencinta. Mencintaimu. Oh, betapa ku saat ini ku cinta untuk membenci, membencimu. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Benci itu
c'était la deuxième chanson de Naïf intitulée Benci untuk mencinta. En 1996, Naïf a entendu qu'un label Bulletin avait projeté à publier un album de la compilation, donc Naïf lui a offert un démo cassette. De façon inattendue, le producteur s'intéresse à ce démo cassette et à faire un album spécial pour Naïf. Et après être passé diverses procédures, Naïf est finalement entré dans le studio et a réussi de publier le premier album avec une chanson intitulée « Balap mobile » comme un hit. Le premier album de Naïf a publié en 1998, se compose de « Mobile balap »,« Picnic 72 »,« Benci libur »,« Jauh »,« Imaginary sun », »,« Rumah Yang Yahud, Puspa Indah, Sekali Layar, Jasbi, Penari Langit. Serditor avant de terminer notre programme, voici les dernières chansons de Naïf intitulées Aquarella et Picnic 72. Bonne écoute et au revoir.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.